Ce n'est pas facile de voir un proche qui refuse de se soigner, de le voir sombrer dans la dépression et de ne pas mettre les bonnes actions pour l'aider. Comment faire pour diriger un proche vers la thérapie? Comment faire pour l'aider à prendre soin de sa santé mentale? C'est ce qu'on va voir dans l'épisode du jour.
Hey, bonjour à tous et bienvenue. Vous écoutez Raconte-moi ta dépression, c'est le podcast dont vous avez besoin pour gérer au mieux la vôtre et celle de votre proche. Moi, c'est Manuela et je suis coach pour dépressifs et pour proches de dépressifs. Après dépression, rechute et tout ce qui va avec, j'ai décidé de faire en sorte de pouvoir apporter aux personnes qui en souffrent directement ou indirectement tous, je dis bien tous les conseils que j'aurais aimé avoir pour mieux gérer la mienne. D'ailleurs, n'écoute surtout pas la voix de la dépression, hein, et ne pense même pas un seul instant que tu ne puisses pas t'en sortir. Vois cet épisode comme une conversation chaleureuse avec une amie qui n'a qu'une seule envie, t'aider face à ta dépression. Tu es perdu, tu ne sais plus comment faire, la dépression de ton proche commence à te dépasser, et bien toi aussi, tu es au bon endroit. Je te proposerai, cher proche, des conseils concrets pour l'entourage des dépressifs, afin d'être une aide réelle et non une aide destructrice. Chaque mercredi pour les proches des dépressifs et chaque vendredi pour les dépressifs, ici, je te partage tous les conseils dont tu as besoin pour retrouver joie, motivation et savoir-faire. Alors, tu t'installes confortablement, tu prends une petite boisson chaude et un plaid, ou alors tu augmentes le son dans ta voiture et c'est parti. Bienvenue à toi, cher proche, et bienvenue sur ce tout nouvel épisode du podcast et j'espère que tu vas bien. Il y a une réalité qui n'est pas facile avec la dépression, c'est de se retrouver avec son proche qui en souffre, qui refuse de se soigner, enfin surtout de commencer une thérapie. Pourquoi est-ce que c'est quelque chose de difficile? Car c'est pas facile de voir un être cher sombrer dans la maladie et de le voir en fait ne mettre aucune action en place pour aller mieux. Ça donne vraiment des sentiments assez ambivalents, on se dit mais pourquoi, il y a de l'incompréhension, et surtout si on vit avec cette personne et qu'on a les dommages collatéraux de son comportement, on peut apporter encore d'autres sentiments bien plus profonds comme de la déception et même quelquefois de la colère. Vous savez ici, même si moi-même j'ai vécu la dépression, je sais que c'est pas forcément évident de se retrouver avec quelqu'un qui refuse tout simplement de commencer une thérapie pour sortir de la dépression. Seulement voilà, il y a des véritables raisons profondes qui font que du coup les personnes qui sont en dépression refusent de commencer une thérapie. Car cette attitude, elle est vraiment très courante et vous la retrouverez chez de nombreux dépressifs. C'est beaucoup de personnes qui pourraient vous raconter leur histoire. Ils vont en fait tout simplement vous dire qu'il y a une période où ça a été difficile de mettre en place la thérapie. Par conséquent, personne n'est à l'abri en fait de ce refus de soins. Moi pour ma part, je suis un mauvais exemple, comme j'aime le dire. J'ai mis 18 mois avant de commencer ma thérapie. Il y a des raisons en fait qui sont cachées et le plus important c'est que tu comprennes pourquoi. Parce qu'en fait l'objectif est bien sûr que cette personne qui souffre de dépression soit bien, qu'elle puisse s'en sortir, qu'elle puisse mettre en place les bonnes actions. Et toi tu es dans la situation où tu observes cette personne, tu la vois au quotidien et elle n'arrive pas à prendre soin d'elle. Je pense que tu as envie de l'encourager et de lui dire de prendre soin d'elle, de faire les choses de la bonne façon. Seulement voilà, il y a toute une attitude à avoir, tout un comportement à mettre en place pour réussir à aller. Il ne s'agit pas en fait de faire un peu des espèces de messes basses ou des espèces de trucs pour un petit peu arnaquer la personne. Il s'agit de prendre la personne avec sa dépression, de la prendre avec ses peurs, ses doutes et les raisons pour lesquelles elle refuse de voir un thérapeute pour que tu puisses toi avoir les bonnes cartes sur la table et diriger correctement ton proche vers la thérapie. Alors le but de cet épisode est de t'expliquer pourquoi il y a ce refus de soins si courant chez les personnes qui sont en dépression. Je vais te montrer quels sont les comportements qu'il ne faut surtout pas avoir au quotidien pour encourager son proche et ce que tu peux faire aussi pour le diriger vers la thérapie. Allez, c'est parti, rentrons donc directement dans le vif du sujet. Le premier point qu'on va voir, c'est d'abord pourquoi est-ce qu'il y a ce refus de soins face à la dépression. Parce que pour commencer, il faut que tu saches quelque chose de très important. Nombreux sont les personnes qui souffrent de dépression, qui ne veulent pas voir de thérapeute ou avoir une thérapie ou même prendre des traitements. Et est-ce que tu sais qu'il y a une explication entièrement logique à cette situation ? Aujourd'hui, malgré le fait que nous soyons dans les années 2020, au moment où j'enregistre cet épisode de podcast, la dépression reste dans notre société un véritable tabou, une véritable honte et une faiblesse.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle de dépression, beaucoup de gens vont avoir le fait de se dire « Oh, bouge-toi les fesses, oh, c'est pas très très bien ce que tu fais ». Et ceux qui vont en souffrir vont se dire « Bah non, c'est la honte, j'ai pas envie d'en parler ». C'est intéressant parce que on se moque pas d'une personne qui souffre d'un cancer. Quand on se retrouve avec quelqu'un qui doit commencer une chimiothérapie, personne ne lui dira « Bah, il serait peut-être temps que tu bouges tes fesses, hein ». Et on pourrait même lui dire « Non mais attends, tu vas pas accepter la chimiothérapie, c'est chimique, ton cerveau il a pas besoin de ça, de la radiation, mais c'est n'importe quoi ». Pourquoi est-ce qu'on ne va pas avoir ce genre de comportement, ce genre de propos ? Parce qu'il y a une sensibilisation du grand public sur cette maladie. On a des spots publicitaires, les médecins en parlent beaucoup, les gens savent à partir d'un certain âge qu'il faut faire le dépistage du cancer du sein pour les femmes, la prostate pour les hommes, qu'il faut être sensible aussi à de nombreuses choses. Est-ce que tu as déjà vu un spot publicitaire sur la dépression ? Ou est-ce que tu as déjà entendu parler de dépression à la télé ? Et quand je parle de dépression, c'est pas les séries télévisées pourries, hein, les séries policières, où à chaque fois le criminel, il a fait une dépression dans sa vie, ce qui fait que ça a déclenché un crime passionnel et qu'il a tué quelqu'un d'autre. Soyons honnêtes deux secondes. Le refus de soins n'est pas forcément lié uniquement à l'ego de la personne, mais à un vrai manque de connaissances sur la dépression et la vision que notre société en fait. C'est-à-dire que, comme la dépression s'est vue comme une faiblesse, eh bien un homme ne peut pas être faible. Comme la dépression s'est vue comme une folie, on n'a pas envie d'aller voir un thérapeute. Et encore plus de voir un thérapeute qui va parler de notre enfance. Aller voir un psychiatre, c'est pour les schizophrènes, c'est pour ceux qui sont bipolaires, c'est pas pour moi, moi je suis pas malade, je suis pas folle. Comme il n'y a pas d'explication, voire très peu d'explications sur la dépression, c'est-à-dire que tant qu'on n'y est pas confronté, on ne va pas se retrouver avec une connaissance générale basique, on n'en a aucune. Et c'est que quand on est vraiment dedans qu'on commence à comprendre. Mais en amont, c'est difficile. Ce qui fait qu'en fait, la société, elle donne l'opportunité aux personnes qui souffrent de dépression de refuser catégoriquement de voir un thérapeute ou même de se soigner. Sans oublier que le parcours de chacun, bien sûr, est semé d'embûches et de limites personnelles. Alors tu vas me dire, Manuela, tu défends un peu trop facilement mon proche qui refuse de se soigner. Hein. C'est un peu facile ton explication. Eh bien, j'espère que tu ne le penses pas comme ça. Parce que moi-même, en m'étant retrouvée dans la situation, la première chose que j'ai dit à mon médecin, non, je suis pas en dépression, je suis pas folle. Et je ne suis pas la première à l'avoir dit. En fait, de base, ton proche est conditionné à refuser d'avoir une thérapie. Ce qui fait que si tu prends en compte cette information, ce sera plus facile pour toi de pouvoir savoir quels sont les mots, les phrases et les choses à ne pas dire ou à dire pour pouvoir toucher ton proche. Les conditions de base sont compliquées et en fait, il faut savoir ces informations-là. Parce que toi, la seule chose que tu vois, c'est que ton conjoint refuse de se soigner. Moi, ce que je vois, c'est une peur profonde derrière qui fait tout simplement peur à la personne et qui, du coup, va expliquer pourquoi elle refuse de se soigner. Souvent, les gens vont pas forcément dire « Oui, mais c'est à cause de la société, hein ». Non, parce qu'on est conditionné, donc on n'est pas forcément conscient de ça. Et donc, du coup, on va donner des explications qui nous appartiennent à nous. Mais si toi, en tant que proche, tu veux aider ton proche à sortir de la dépression, à mettre en place une thérapie, il est important que tu comprennes ces informations-là. Maintenant, une fois que tu as vu tout ça, là, on est d'accord, c'est des informations qui sont importantes. Mais ne t'inquiète pas, on peut y remédier. Pour pouvoir remédier en fait à tout ça, il y a deux choses que l'on va voir, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Premièrement, dans ce qu'il faut faire, c'est d'avoir une connaissance sur la dépression. Avant d'aller encourager son proche, tu sais, à voir un thérapeute, à mettre en place toutes les choses, c'est bien d'avoir une connaissance de la dépression, de savoir ce que c'est, une maladie, de savoir quel est son dysfonctionnement que l'on va avoir et les comportements. Parce que quelquefois, on va attribuer à un proche un comportement qui est lié à sa personnalité alors qu'il s'agit de la dépression. Le fait de le savoir, ça permet en plus de pouvoir toi avoir une bonne connaissance et de savoir comment prendre la personne. Quand on a une connaissance sur la dépression, on comprend ses limites, on comprend les choses dont elle a peur, on comprend ce que c'est, car toutes les personnes qui vivent de la dépression ont à peu près les mêmes peurs. Il est donc important pour toi que tu augmentes ta connaissance sur la dépression avant d'aller aider ton conjoint, ton proche, un parent à aller voir un thérapeute. Cette connaissance est importante, elle sera ta clé pour avoir les bons arguments. Maintenant qu'on a vu cette première chose à faire, on va voir la deuxième chose à ne pas faire. En fait, souvent ce qui se passe, c'est qu'on va se retrouver à parler non-stop de la dépression et de traitement. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va voir notre proche, notre conjoint, ou alors même qu'on va avoir des difficultés dans notre couple, on va commencer à dire « oui, mais c'est parce que t'es en dépression, là c'est ça le problème, donc du coup machin, ça marche pas ». Quand on va commencer en fait à diriger quelqu'un pour aller voir un thérapeute et qu'on a un problème de couple et qu'on met la dépression partout, vous savez, la personne ne va pas accepter ce qu'elle est en dépression. Parce que ce qui va se passer, c'est qu'elle va se retrouver en disant « mais ça c'est un bon argument, moi je suis un peu fatiguée, mais ça va pas ». C'est pas de parler non-stop de la dépression, c'est de montrer la dépression. C'est de ne pas dire à la personne « regarde, en fait t'as une dépression de telle manière parce que t'es comme ça, comme ça, comme ça, comme ça ». Ça, c'est pas le bon truc. Donc, c'est-à-dire que quand on va parler à la personne qui souffre de dépression, on va le faire dans un bon cadre, pas dans un cadre de dispute ou dans un cadre où vous avez un problème de couple. C'est-à-dire dans un autre cadre pour mettre en évidence quelque chose d'important. Bien sûr, faut pas parler H24 de dépression et de traitement. Plus on en parle, plus on fait l'appel au loup et plus, en fait, quand on va vouloir en parler à un moment spécifique, eh bien, ce sera mis de travers. En fait, moi, ce que je vois beaucoup, c'est un peu... que le fait d'en parler beaucoup, ça va apporter en fait comme quelqu'un qui est en train d'essayer de louer un bateau et de mettre quelqu'un dans un bateau alors que la personne te dit qu'elle a un mal de mer. Ce n'est pas à toi de parler de dépression. Le principal, ce qu'il faut que tu puisses comprendre, c'est qu'il vaut mieux limiter les conversations sur la dépression pour mettre en évidence un point important, les symptômes, et quand il y a les symptômes, de les pointer du doigt, plutôt que de dire « moi je pense que tu fais une dépression parce que regarde, notre couple ça allait avant, ceci, cela, ça marche jamais ». La deuxième chose à ne pas faire, c'est d'être un autre thérapeute. C'est une autre attitude que je vois beaucoup et que je vois beaucoup plus dans les couples. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que dans le couple, on est des super confidents. On se raconte tout, on se dit tout et c'est entièrement normal. On parle à son meilleur ami. Sauf que il y a un écueil dans lequel il ne faut pas tomber, c'est d'écouter trop de choses et de ne pas dire « ça, c'est trop dur pour moi, c'est pas à moi de te répondre, c'est au thérapeute ». Parce qu'en fait, si je peux vider mon sac à mon proche, à mon conjoint, quel est donc l'intérêt en fait pour moi d'aller voir un psy et de raconter ma vie à quelqu'un qui ne me connaît pas? Et là, tu deviens un psy pour ton proche et tu te retrouves toi avec un argument qui est vrai et qui est de taille parce que vous avez beaucoup trop parlé. Alors tu vas me dire, Manuela, comment je trouve l'équilibre? C'est gentil de dire ça, Manuela, hein? Mais bon, mon équilibre, je fais comment? Pardon, désolé, excuse-moi. En fait, quand ton conjoint, ton proche, te parle de ses difficultés, rappelle-lui régulièrement et même tout le temps que ce n'est pas ton rôle, que quand tu vois ça, tu vois la dépression et que ce n'est pas ton rôle. Oui, mais tu m'as dit de ne pas parler non-stop de dépression. Je parle de quand quelqu'un vient se plaindre. Le dépressif, c'est un comportement que tu vas avoir beaucoup, va vouloir exprimer ses difficultés. Et toi, tu vas croire que c'est quelqu'un qui se plaint, mais c'est surtout d'exprimer les difficultés, il a besoin de parler. Et quand il va avoir besoin de parler, il va venir te voir toi, te dire que ça ne va pas ou que c'est compliqué. Et donc du coup, dans ces moments-là, à toi de rappeler régulièrement que non, moi je ne peux pas répondre à ces problèmes-là, c'est un thérapeute qui peut le faire. Quand je t'entends me dire ça, moi je vois la dépression parce que je connais ce symptôme. Ce symptôme-là, il est lié à la dépression. Et que du coup, bah, quand tu vois ça, moi pour moi, c'est pas du tout mon rôle, il faut que tu ailles voir un thérapeute. Le fait de faire ça va montrer régulièrement à votre proche que oui, il y a peut-être un problème et qu'il faut mettre en place les bonnes choses. Oui, mais s'il ne me parle pas, alors là, c'est un autre débat, c'est un autre problème. On ne va pas tirer les vers du nez à la personne, on va mettre en place une conversation bien plus simple et on va voir ça tout à l'heure. Et le dernier truc, là, ça va être une phrase toute simple, on ne fait pas d'ultimatum à quelqu'un qui souffre de dépression pour le faire réagir. Ça ne marche pas avec la maladie parce qu'il y a trop de paramètres complexes qui sont liés à la maladie, le manque d'estime de soi, le fait que la personne, elle a des problèmes cognitifs, donc elle est plus lente, plus compliqué, les ultimatums, ça marche pas. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Comment on dirige une personne vers la thérapie? Alors déjà, en gardant bien sûr toutes ces informations en tête, il est bien d'avoir des conversations, ou une ou plusieurs conversations franches, avec son proche, pour comprendre ses peurs internes et pour le diriger vers la thérapie. Comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien, c'est très simple. On va trouver un moment neutre dans notre relation où on va pouvoir parler de la dépression. Un moment où c'est pas des disputes de couple, un moment où c'est pas un moment où il est fatigué, un moment où on est un peu seul et on va pouvoir parler. On va mettre en évidence tout ce qu'on a vu en tant que symptôme de la dépression. On va s'appuyer d'écrits, pas de ce que je dis. Donc on va avoir avec nous une feuille ou sa tablette pour montrer peut-être un des articles de mon blog ou un article d'un site sur la dépression. On va rappeler à la personne que c'est normal ce qui se passe, qu'il ne faut pas en avoir peur ni en avoir honte, et que le moyen pour réussir à se débarrasser de tout ça, eh bien, c'est d'avoir l'aide d'un thérapeute, qu'on ne va pas raconter son enfance, qu'il n'est pas fou ni folle, et qu'un Français sur cinq passe par cette épreuve, et que du coup, toutes les choses qu'on va pouvoir faire, c'est en équipe pour l'aider à passer tout ça. Pour pouvoir faire ce schéma, je t'ai mis à ta disposition un guide complet pour te montrer comment diriger la conversation et comment dépasser certains arguments que peuvent avoir ton proche. Le lien est dans les notes de cet épisode. Il s'agit de tout où est-ce que tout est écrit. Il faut que tu fasses un petit plus et tu vas pouvoir voir le guide et le télécharger pour l'utiliser pour ton proche. En plus de cette conversation franche, tu pourras utiliser avec douceur tous les outils qui sont à ta disposition sur mon blog. Entre les articles de blog et les podcasts, tu pourras partager ça à ton proche. Par exemple, tu vois, il y a des articles vraiment intéressants comme « Suis-je en dépression ? Comment le savoir ? Peut-on vraiment sortir seul de la dépression ? Comment retrouver mes émotions face à l'apathie ? En dépression et pas de volonté, est-ce que je peux m'en sortir ? Déni de dépression, comment s'en libérer ? Ces choses que j'aurais aimé savoir avant ma dépression sont des articles que tu peux partager à ton proche. Toutes ces informations-là sont dans les notes de cet épisode. Il suffit d'aller cliquer dans le lien, comme je t'ai dit, juste en dessous de ces, dans la partie écrite. Donc bien sûr, tu vas pouvoir proposer toutes ces choses à ton proche, tu vas pouvoir lui parler, mais il faudra faire preuve de patience, parce que chacun possède ses propres limites, chacun possède son propre parcours et on n'est pas forcément égal dans notre façon de réagir. Pour certains, il faut bien plus de temps et pour d'autres, il faut à peu près 5 secondes. La patience, c'est vraiment ton meilleur arme face à la dépression parce que même à partir du moment où ton proche commence la thérapie, il va falloir en fait un bon moment avant même que ça fasse effet ou que les choses commencent à se faire. Donc la patience est vraiment importante. Mais moi je suis pas en train de dire de parler de patience passive, je parle de patience active. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de dire de ne rien faire. Encourage régulièrement ton proche à s'en sortir. Dis-lui que tu es là, que tu comprends. Normalise la dépression quand il y a quelque chose qui ne va pas. Au lieu de dire oui, bah, la dépression c'est nul. C'est bien de dire, ah bah tu sais, c'est normal, quand on est en dépression, ça se passe comme ça, mais t'inquiète pas, on s'en sort. Hein. Moi j'écoute le podcast de Manuela dans Raconte-moi ta dépression. Elle-même, elle s'est sortie de la dépression, elle a réussi à s'en sortir, et en plus, bah, elle aide les autres, elle les accompagne, et toutes ces choses-là. Le fait de pouvoir dire ça régulièrement va permettre de casser un peu cette image un peu complexe qu'il y a de la dépression et de ce que toi, tu peux faire. Au quotidien, continue à te préserver de la dépression, à mettre des limites, comme je l'ai dit tout à l'heure, de façon à ce que tu puisses continuer à aider ton proche dans la durée. Je sais que c'est une situation qui n'est pas facile et que peut-être que tu as l'impression qu'elle te pèse sur tes épaules, devoir encourager ou même diriger ton proche à aller voir un thérapeute. Le plus important aujourd'hui, c'est de pouvoir mettre en place les bonnes choses en bon moment en fait, et que du coup tu puisses y arriver. Sache que c'est pas facile d'être dans ta situation, mais que tu fais les choses correctement. Sois fière de toi, suis toutes ces recommandations, mets-les en place et sois patiente, et tu verras avec le temps, ça pourra vraiment avoir un effet important et un effet juste pour ton proche qui est en dépression. On a vu beaucoup de choses aujourd'hui, n'est-ce pas ? C'est vrai que de se retrouver avec quelqu'un qui refuse de se soigner, c'est loin, mais alors loin d'être difficile. L'une des premières choses à se rappeler, c'est qu'il faut comprendre les raisons profondes liées au refus de soins. La société conditionne les personnes en dépression pour vraiment ne pas mettre de banc de suivi, en fait, avec eux. De base, le dépressif n'est pas du tout dans un environnement qui va le pousser à mettre en place une thérapie, et ça, il faut le savoir. Pour aider ton proche, évite de parler non-stop de dépression, et surtout dans les moments où ça n'a pas vraiment de lien et de cause à effet, tu vas plus te retrouver à essayer de dire tout qui n'est pas des bonnes choses. Vraiment, ça, c'est un point qui est important. Ne sois pas un autre thérapeute et oublie les ultimatums. Pour pouvoir aider ton conjoint ou ton proche à pouvoir en fait voir un thérapeute, il est bien d'avoir des conversations tranche dans les bons moments et pas dans les moments de dispute avec ton conjoint ou avec ton proche. C'est bien de pouvoir trouver un moment pour mettre en place une conversation. Si tu veux avoir les lignes directes de cette conversation, je vais t'inviter à télécharger le guide que j'ai créé pour te permettre d'avoir une conversation vraiment super top. Pour cela, tu peux télécharger ce guide dans les notes de cet épisode. Et à travers le blog My Daily Pression, tu as aussi beaucoup d'outils qui te permettront de montrer aussi à ton proche comment faire. Le fait d'écouter les témoignages d'autres personnes ou même de lire les articles peuvent faire bien plus de bien que toi qui fais un discours de 5 à 10 minutes. Donc voilà, tu as toutes les informations aujourd'hui à ta disposition pour pouvoir aider ton proche à avoir une thérapie. La patience sera ta meilleure arme pour réussir à tenir le coup. Franchement, tu n'es pas obligé de passer ça tout seul. Sache que je fais beaucoup d'accompagnement pour les conjoints ou les proches dans ta situation. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu peux bien sûr faire appel à moi. Ça a été un plaisir en tout cas pour moi d'enregistrer cet épisode de podcast. Pour moi, il est primordial et important et il fallait que je puisse vous le partager. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao !